VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h à Ouagadougou, 12h à Libreville au Gabon. On commence par l'actualité aux États-Unis. Donald Trump a promis d'abroger la réforme emblématique de la présidence Obama, mais les divisions au sein de son parti rendent sa tâche difficile. La majorité républicaine du Sénat américain a renoncé mardi à voter cette semaine pour réformer le système de santé en raison de fortes divisions internes. Un nouveau revers donc, l'abrogation partielle de l'Obamacare a buté sur la résistance d'une poignée de frondeurs. Claire Morin-Gibou.
Mitch McConnell, chef de la majorité républicaine au Sénat, a annoncé hier que la proposition de loi ne sera pas examinée cette semaine. Le sénateur David Perdue ajoute que le vote pourrait avoir lieu en juillet. Sur les 52 sénateurs républicains, au moins 5 sont contre, alors que le groupe ne peut se permettre que 2 défections. Des ultra-conservateurs estiment que le projet ne va pas assez loin pour supprimer Obamacare, alors que les modérés s'inquiètent de voir des dizaines de millions d'Américains privés d'assurance santé. Les 48 démocrates ont fait front commun contre l'initiative. Le report du vote est un revers pour le président Donald Trump, qui a du mal à concrétiser sa promesse électorale d'abrogation de la loi démocrate de 2010. Dans l'après-midi, tous les sénateurs républicains ont été invités à la Maison-Blanche.
L'OTAN, pressé par le président américain Donald Trump de mettre davantage la main à la poche, s'attend à une hausse de 4,3% des dépenses de défense en Europe et au Canada en 2017, a annoncé aujourd'hui son secrétaire général Jens Stoltenberg. La hausse attendue pour 2017 représente des dépenses supplémentaires de 12 milliards de dollars en Europe et au Canada. Elle ne prend pas en compte la forte hausse du budget militaire américain annoncé par le président Trump. Le président vénézuélien Nicolas Maduro a prévenu mardi que ses partisans prendraient les armes si son gouvernement était renversé par la violence. Maduro s'exprimait lors d'un meeting organisé en vue des élections constituantes qu'il veut organiser le 30 juillet. L'opposition majoritaire à l'Assemblée nationale depuis les élections de décembre 2015 refuse ce projet et réclame la tenue d'une élection présidentielle anticipée. En l'état du calendrier électoral, le prochain scrutin présidentiel n'est pas prévu avant fin 2018. Le Venezuela connaît depuis début avril une nouvelle crise politique violente qui a fait au moins 75 morts.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Que devient Malam Ibrahim Diko? C'est le chef du groupe terroriste Ansarul Islam qui a perpétré la plupart des récentes attaques au nord du Burkina Faso. Ce mardi, un communiqué sur une page Facebook attribuée au groupe terroriste a désigné Jaffa Diko comme le nouveau chef d'Ansarul Islam. Alors, question, Malam Diko a-t-il été tué dans les récentes opérations antiterroristes dans le nord du Mali? Bagassi Koura, adjoint à Bamako. Moussa Diko, il est journaliste dans la capitale malienne.
Sous réserve d'être authentifié, parce que c'est un communiqué publié sur une page Facebook, si jamais le communiqué est authentifié venant de Ansar Islam, ça veut dire qu'il y a un changement de leadership au niveau de cette katiba qui est beaucoup plus affiliée à l'État islamique qu'à Hakimi au Sahel.
Oui. Alors, dans le communiqué, il parle de circonstances graves. Ça pourrait faire allusion à quoi?
Le communiqué est flou, mais circonstances graves. Et puis quand je vois qu'Allah le facilite, qu'il revient plusieurs fois, on a l'impression que les dernières opérations des forces Barkhane dans cette zone ont sans doute coûté la vie à Malam Ibrahim Diko. C'est l'impression que j'ai beaucoup plus que le monsieur. Soit il a été tué lors d'une opération Barkhane où il a été victime d'un règlement de compte au niveau même de son organisation. C'est l'impression que le communiqué donne.
Alors, on dit que son remplaçant, le remplaçant d'Ibrahim Diko, c'est Jaffar Diko. Est-ce que vous connaissez cet homme?
Je ne connais pas précisément Jaffar Diko. C'est un liste inconnu qui va peut-être sortir bientôt de l'anonymat. Et il faut surtout craindre des représailles, des opérations d'envergure parce que chaque nouveau rassemblement responsable nommé au niveau d'une katiba ou d'une organisation terroriste cherche d'abord à se mettre en évidence pour se faire respecter d'abord au sein de sa katiba.
Parlez-nous de l'importance de Ansarul Islam au sein des groupes islamistes au nord au Mali.
Ansarou a une position très ambiguë parce que, vous savez, récemment, il y a eu une alliance au niveau du Sahel où on a créé une nouvelle alliance commandée par IAD. Mais curieusement, Ansarou n'est pas dans cette dynamique parce qu'Ansarou est beaucoup plus rattaché à l'État islamique, comme je l'ai dit plus haut. Mais bon, Ansarou a une puissance parce que c'est Ansarou qui a amené le djihad au Burkina Faso. Ansarou est devenu vraiment un élément très dangereux parce que ces éléments naviguent entre les frontières du Mali et le Burkina. Ils commettent des actes au Burkina, ils se réfugient au Mali, ils admettent des dégâts au Mali et ils retournent au Burkina. C'est ce qui explique d'ailleurs la multiplication des opérations de ratissage des armées maliennes burkinabées et soutenues par Barkhane dans cette zone.
Moussa Diko, journaliste malien, joint à Bamako par Bagassi Koura. Un ancien candidat à la présidentielle gabonaise qui avait menacé à la mi-juin de faire exploser des bâtiments à Libreville si le président Ali Bongo ne quittait pas le pouvoir a été placé mardi en détention préventive. Son nom, c'est Roland Désiré Abba Miko. Il a été placé donc en détention préventive avec son ancien directeur de campagne Guy Arlene Nangango mardi soir après avoir été inculpé, entre autres, d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, d'incitation à la révolte et de diffusion de fausses nouvelles en vue de troubler l'ordre public, a indiqué ce mercredi à l'AFP le procureur de la République, Steven Dong et Sam Ndong. Au Burundi, le nouvel émissaire spécial de l'ONU, Michel Kafando, doit rencontrer aujourd'hui le ministre des Relations extérieures, Alain Nyamitwe, avant de rencontrer le président Pierre Nkurunziza demain matin, probablement. C'est ce qu'a déclaré un haut responsable burundais cité par l'AFP. Monsieur Kafando est arrivé hier à Bujumbura pour une visite protocolaire. Il doit ensuite se rendre en Tanzanie pour y rencontrer l'ancien président Benjamin Mkapa, le facilitateur dans la crise burundaise. L'ex-premier ministre du Bénin, Lionel Zinsou, a été élu nouveau président du Centre de réflexion progressiste français Terra Nova, a annoncé aujourd'hui la fondation. À 62 ans, l'économiste franco-béninois succède à l'ancien dirigeant syndicaliste François Chérec, décédé début janvier à l'âge de 60 ans. Monsieur Zinsou avait été l'un des premiers soutiens politiques africains de Monsieur Macron, avec qui il a travaillé au sein de la banque Rothschild. Le programme alimentaire mondial a demandé à l'Union européenne de l'aider à réunir $1 milliard au cours des prochains mois pour sauver des centaines de milliers d'enfants menacés par la faim au Nigeria, en Somalie, au Soudan du Sud et au Yémen. André Vornich, porte-parole du PAM, évoque ici l'étendue des besoins.
Si on ne reçoit pas l'argent, des gens vont mourir. Et nous parlons effectivement de beaucoup de personnes. Évidemment, il n'y aura sans doute pas 20 millions de morts, mais nous parlons quand même potentiellement, par exemple, de 100 000 enfants qui souffrent de malnutrition et qui risquent effectivement de perdre la vie. Il faut savoir aussi que la famine, c'est quelque chose qui frappe d'une façon extrêmement aiguë les populations, mais que si on intervient trop tard, même si on arrive à réduire l'impact dure quand même pendant des années. Il faut savoir quand même qu'il s'agit d'une perte de la force productive de divers pays. Nous parlons d'à peu près 1,1 milliard de dollars répartis sur les 4 pays. Bien sûr, ce n'est qu'une partie des chiffres nécessaires sur la longueur de l'année, mais il faut savoir que cette crise touche tout le monde et nous comprenons d'une certaine façon le fait que les pays donateurs soient un peu moins disposés à payer pour essayer de remédier à cette tragédie, dans la mesure où, bien sûr, il y a des pressions budgétaires internes, dans la mesure où il y a une profusion de crises qui se déroulent sous nos yeux. Mais nous en appelons quand même à la solidarité internationale sur ce dossier. Et il faut savoir que nous nous bornons pas seulement à demander de l'argent. Nous demandons aussi à ce que pression soit faite sur les parties en conflit, parce qu'il faut savoir que dans quasiment toutes ces zones qui sont affectées, les parties en conflit ne respectent pas le droit humanitaire.
André Vornich, le porte-parole du PAM. On termine avec du sport et du football. Coupe des fédérations en Russie. champion d'Europe contre champion d'Amérique du Sud ce soir à Kazan pour le coup, sur le coup de 18 GMT pour une place en finale de la Coupe des Confédérations. Le Portugal et le Chili croisent le fer dans le cadre de la première demi-finale. L'autre demi-finale de ce tournoi opposera demain, jeudi, la très rajeunie équipe d'Allemagne et le Mexique en construction à Sochi. Ce sera aussi à 18h. Fin de ce journal, Jean-Roger Billon. À plus tard.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.